I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
Whoever's behind this operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman.
Le salon impromptu.
Et bonjour à toutes et tous. Prenez place dans le salon impromptu et laissez-vous porter ou chavirer par la conversation qui nous emmène ce dimanche dans l'univers des livres avant les livres, avant les lecteurs, dans celui des mots qui quelquefois hésitent encore, des pages qui ne trouvent pas leur place tout de suite, qui tâtonnent, qui recommencent, dans le monde des livres en gestation, mais aussi en conduite accompagnée, bientôt en soutien parental, jusqu'à l'EHPAD même quelquefois, ou jusqu'à la réincarnation, la résurrection. Bref, on part dans le monde de ces accompagnateurs au long cours que sont les éditeurs. Et on se penche sur ce métier qui est sans doute peut-être plus une passion, j'en sais rien. On va leur demander pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qui les anime, les éditeurs, à quel rêve ils carburent. Tout ça, bon, Hervé, une petite moue, grâce à Hervé Ozil, justement, des éditions du Chassel. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Grâce également à Fabienne Dedim, des éditions au pluriel.
Bonjour Sophie.
Bonjour Fabienne. Et Sébastien Gaillet. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sophie.
Des éditions, des 7 éditions. D'abord, alors on parle de maison d'édition, on ne parle pas d'entreprise d'édition, d'industrie d'édition, il y a ce petit côté un peu cocooning, maison. Est-ce que vous pouvez chacun décrire un petit peu votre maison d'édition, justement, pour que les auditrices et les auditeurs commencent à faire connaissance avec vous?
C'est une maison avec une porte ouverte, ouverte à des projets, à des envies qu'on a envie de partager. Éditeur, c'est ça, c'est mettre en lumière une histoire, une démarche artistique, une fêlure.
Parce que pour toi, une fêlure, ouais. Pour toi, les éditions du Chassel, qu'on comprenne un peu, c'est plutôt, t'es spécialisé dans ce qu'on appelle les beaux livres.
Oui, c'est pas péjoratif pour les autres, hein. C'est plutôt les beaux livres, c'est-à-dire... des livres sur des peintres, des livres sur des photographes, et puis beaucoup de livres aussi sur le patrimoine, notre patrimoine, qu'il soit naturel, historique, bâti.
Et depuis combien de temps?
Eh bien, un quart de siècle.
Aïe.
Ah oui, là, on ne rivalise pas. Hein. On ne rivalise pas avec Hervé.
Ah oui, petit joueur, nous. Hein.
Et tu es à la manœuvre depuis un quart de siècle?
À la même...
À la manœuvre.
À la manœuvre, oui, tout oui, à fait. Oui. C'est quelque chose que j'ai fait après un métier qui était... j'avais une agence de communication. Et les agences de communication, quand on travaille pour des clients, c'est toujours pour la veille. Mmh. Alors que l'édition, on peut se donner un peu plus de temps. Voilà. Et travailler, mettre sur l'établi. C'est ce que j'aime bien, moi, quand on a un projet. Ben, je mets sur l'établi, on choisit le format, on choisit les polices de caractère, etc.
On va y revenir, ouais.
On va y revenir.
Merci. Donc une maison ouverte, à quoi elle ressemble ta maison, Fabienne? La maison des éditions au pluriel.
Ah oui, c'est très humain, en effet. C'est beaucoup de rencontres avec des auteurs. C'est des gens qui arrivent avec ce qu'ils ont sans doute de plus cher, qu'ils ont sorti de leur trip, et ils viennent avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de demandes, avec beaucoup de sincérité. Et en fait, il faut les écouter et puis essayer de les guider au mieux pour arriver à sortir un produit, en fait. Quelque chose que on va pouvoir diffuser, vendre, qui va plaire. Et c'est ça, je pense, le rôle, c'est de les écouter, de les guider et puis d'essayer de faire quelque chose qui sera réussi.
Et ça, toi, tu le fais depuis combien de temps?
Ah ben, beaucoup moins longtemps que Hervé, mais j'ai commencé. Le premier livre a été édité en 2017, donc ça fait 9 ans.
D'accord. Et donc, contrairement... Enfin, c'est pas contrairement, mais Hervé disait c'est plus des beaux livres, même si tu en as édité. Est-ce qu'il rentre dans cette catégorie, Transhumance?
Oui, Transhumance, c'est un livre qui vient de sortir, qui est un beau livre. C'est vrai que c'est pas... C'est pas mon idée au départ. Moi, je préfère de loin éditer des romans. Mais quand on a des opportunités, qu'on a des gens qui vous sollicitent, qu'on les connaît bien, qu'on se dit que le projet est beau, et puis qu'en plus, quelque part, l'atelier de reprographie qu'on a, on a la maîtrise de la mise en page, on peut se lancer dans ces projets-là. Mais c'est pas les projets que je préfère. Je préfère de loin les aventures humaines avec des romans et puis beaucoup de textes.
Beaucoup de textes et puis des collections différentes, on en parlera. On continue le petit tour de table. Hop là, on ouvre la maison de Sébastien Gaillet. Hop.
Je vais reprendre la métaphore d'Hervé. Oui, c'est une porte qui s'ouvre à ma maison et... C'est et là, c'est une notion de vraiment de rencontre, de feeling, de c'est avant tout ça. C'est d'abord l'humain d'abord, et puis après, j'aime bien l'idée de on ouvre les fenêtres et le projet part, s'envole et va à la rencontre des lecteurs. Parce que faire un livre, c'est pas très compliqué. Il suffit de d'avoir quelqu'un pour faire de la mise en page, d'avoir un imprimeur qui va imprimer le livre, mais après il faut que ce livre il rencontre des lecteurs. Et voilà, si c'est pour faire des livres qui restent dans des cartons dans un garage, parce que dans ma maison il y a un grand garage avec des palettes remplies de livres, puisque comme on s'occupe nous-mêmes de la diffusion, c'est aussi la caractéristique de nos petites maisons d'édition artisanales, c'est qu'on va à la rencontre des lieux qui vont être les ambassadeurs de nos livres, que ce soit les libraires, mais ça peut être aussi des sites touristiques, des sites culturels, des boutiques terroirs. Enfin voilà, il y a tout ce petit réseau qu'on anime, puisque nos livres ne sont pas diffusés, enfin en tout cas ce qui concerne cette édition, ne sont pas diffusés au niveau national. Mmh. Donc... ça n'empêche pas qu'on ait tous nos livres sont référencés sur des bases de données. Ça fait que quelqu'un qui rentre, qui a entendu parler d'un ouvrage édité par nos soins, il rentre dans sa librairie préférée à Lille et le livre peut être commandé, quoi.
Extraordinaire. Et tu dis nous parce que donc petite maison d'édition, vous êtes deux, Sylvie et toi.
Oui. Alors la structure économique ne permet pas de salarier deux personnes. Sylvie m'accompagne sur cette aventure.
Sylvie t'accompagne.
Voilà, exactement. Et donc, on s'est lancé, nous, dans l'aventure en 2021, en fait. Moi, je suis rentré, en fait, dans le livre plus en tant qu'auteur jeunesse. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de... Pas forcément d'éditer mes livres jeunesse, puisque j'en ai édité qu'un, en fait. Mais c'était plus de recentrer... toute mon activité autour du livre, des mots et de ce partage, en fait. Donc, c'était ça le point de départ à la base.
D'une maison d'édition, donc cette édition qui existe, elle, depuis à peu près celle d'Hervé, les éditions du Chassé, à peu près 2004, c'est ça?
Non, oui, c'est ça, 2004, oui, qui a été créée par Véronique Lardy, avec l'idée de faire des livres... dits régionaux, en fait, sur quatre départements, puisqu'il y a l'Ardèche, bien sûr, qui est la principale... le département qui est le plus concerné, mais après, il y a également le Gard, la Drôme et le Jura, puisque Véronique Lardy avait des opportunités sur le Jura. Moi, j'ai gardé le Jura, on a gardé la Drôme, mais juste sur des calendriers, et on s'est vraiment recentré quand même sur l'Ardèche, puisque le Gard, on ne fait plus rien non plus.
Mmh. Et alors, tu disais, donc tu es à la fois, enfin tous, je pense, hein, vous êtes lecteur, toi tu es auteur, éditeur. Est-ce qu'on peut être éditeur sans être auteur ou titillé par l'idée d'écrire?
Moi, j'ai commencé plein de livres. Je ne les ai pas finis. Je ne sais pas si je les éditerai un jour.
Mais justement, peut-être, il y a là...
Mais pour l'instant, je ne trouve pas le temps de les finir. J'ai plein d'idées, j'ai envie de les faire, mais... En fait, au plus je lis les autres, au plus je me dis qu'il y en a des très doués et que peut-être que moi je suis pas si douée que ça et que je suis peut-être plus douée de les accompagner que d'écrire moi-même. Donc c'est peut-être pour ça que je n'ai fini pas mes livres, on verra.
Hervé ?
Moi j'ai écrit quelques ouvrages il y a beaucoup plus longtemps qu'un quart de siècle. Par contre c'est vrai que bon, j'écris de temps en temps des préfaces, des avant-propos, puis bon, rédige aussi d'autres documents. Mais j'aimerais écrire, mais c'est difficile parce que quand on écrit, on voit toute la chaîne opératoire de l'édition. Et ça bloque un peu, je trouve. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire une résidence d'écriture loin de chez moi, loin de mon ordinateur, pour écrire deux ou trois choses qui trottent dans ma tête et...
Tu as parlé de cette chaîne d'édition, alors justement, on va essayer d'explorer un peu ça. Comment, par quoi ça débute ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient frapper à la porte qui est ouverte, donc avec grande difficulté, enfin qui fait « Eh oh !» dans la maison ? Comment ça marche au départ ? Je ne sais pas qui veut...
Moi, je reçois énormément de manuscrits. Donc, je ne sais pas, je reçois à peu près 15-20 manuscrits par semaine. Qui arrive sur ma boîte mail. C'est assez énorme. Avant les vacances de Noël, là, on en a eu 70 en 15 jours, je crois. Enfin, c'est presque pas gérable.
Mais c'est ça, c'est impossible de lire tout ça aussi. Tu t'astreins au moins à lire les premiers...
Je lis les mails et puis je regarde d'abord si c'est quelque chose qui va rentrer dans ce que j'appelle aujourd'hui ma ligne éditoriale. C'est-à-dire si y a des chances que ça puisse être édité un jour. Donc moi, j'élimine les livres jeunesse, c'est pas mon truc. J'élimine généralement les livres photos, les beaux livres. Ceux qui arrivent juste comme ça par internet. J'élimine aussi tous les livres bien-être, feel good, parce que c'est pas ma cam non plus. Et puis ben, le reste, j'essaie de répartir avec mon comité de lecture et on lit un petit peu. Voilà.
Comité de lecture, ouais, vous êtes plusieurs.
On est quelques-unes. Je dis une parce que pour l'instant, j'ai pas de lecteurs. C'est toutes des lectrices. Et puis, on essaye de faire la part des choses. Ça prend du temps.
Et est-ce qu'il y a quelquefois des livres que tu as refusés, des manuscrits que tu as refusés et qui ont été publiés et tu t'es dit, mince, j'aurais pas dû.
Eh ben, c'est déjà arrivé, mais je me suis jamais dit, mince, j'aurais pas dû.
Moi, c'est Harry Potter, j'ai raté le coche, je l'avais reçu. Ah non, pardon.
Quand je vous ai demandé, pour préparer l'émission, de venir avec un petit son de ce qui vous... Enfin, ce pourquoi vous faisiez ce métier-là, ce qui vous animait un peu, toi, Fabienne, tu as proposé ce son où on entend...
C'est le foutoir dans ma tête. Pourtant, j'aime le classement. Une place pour chaque chose. Et chaque chose a sa place. Ma vie sociale a toujours été rythmée et ordonnée par ce principe avec une précision quasi mécanique, obsessionnelle même. J'ai la passion des dossiers suspendus et des classements en arborescence. Avoir la certitude de pouvoir exhumer une information précise, d'attraper un dossier sans chercher, sans hésiter, me procure un sentiment de sécurité indispensable. Dans ma tête, c'est le foutoir. On se croirait dans le bureau d'un obscur notaire de sous-préfecture qui approche de la retraite et se retrouve dépassé par 40 ans d'archives non classées, un demi-siècle de successions, de cessions et d'actes tous plus compliqués les uns que les autres, des piles énormes de donations à un hypothétique dernier vivant mort depuis 20 ans, une vie entière de recherches généalogiques inabouties butant sur des cousinages inextricables. Le tout gisant à même le sol ou sur le sommet d'armoires bancales prêtes à vomir des tonnes de documents dactylographiés, authentifiés, paraphés, officialisés, mais néanmoins jaunis et oubliés de tous, sauf des araignées.
On vient d'entendre Guillaume Cramoisan qui lisait « La maman de Casa », le roman de Rémi Bellhomme. Pourquoi tu as voulu qu'on entende cette voix ?
Parce que je trouve que dès qu'un acteur professionnel prend un texte en main, il y a un plus. Franchement, les livres audio, c'est génial. Moi, j'espère que j'aurai l'occasion d'avoir des livres publiés en audio, parce que malheureusement, on a moins de lecteurs que d'auditeurs, je pense. Et
vous avez moins de lecteurs
que d'auditeurs ? Il y a moins de lecteurs que d'auditeurs aujourd'hui dans le monde actuel. Mmh. Je pense que les gens sont plus prêts à écouter qu'à prendre un livre et à le lire. Ils passent plus facilement du temps dans leur voiture à écouter la radio, mais aussi à écouter des podcasts. Et quand un acteur prend la peine de s'approprier un texte, il apporte à ce texte certaines lettres de noblesse qui n'existent pas forcément. Et donc, pour moi, c'est une sorte d'aboutissement. Comme un peu si un livre est porté à l'écran. Je trouve que c'est un aboutissement par rapport à une œuvre.
Et aboutissement, parce que donc Rémi Bellhomme, c'est un auteur que tu accompagnes.
Oui, c'est son premier livre, c'était une autobiographie. Il en est à son quatrième. Tous les livres sont différents, tous les livres sont intéressants, tous les livres ont sa patte. Et c'est pour ça que je pense que c'est un vrai auteur qui mériterait... de ne pas rester en Ardèche, quelque part d'avoir un aura beaucoup plus important, d'où l'idée de faire lire par un comédien une partie du texte.
Parce que les éditions au pluriel, c'est des éditions qui éditent... Alors, Sébastien Gaillet de cette édition disait, nous, on est vraiment basés en Ardèche, et notre ambition, c'est de rester en Ardèche, même si les livres peuvent être, diffusés un peu partout. Mais vous, les éditions au pluriel, vous éditez de manière nationale ?
Ah, tout à fait. Les auteurs ne sont pas forcément ardéchois, ne sont pas forcément du coin. Après, les relations sont plus simples avec des auteurs plus proches que plus lointains. Mais on essaye vraiment de se positionner au niveau national. C'est pas facile, mais on y arrive petit à petit. C'est-à-dire qu'on acquiert de temps en temps une librairie qui croit en nous et puis qui nous suit.
Parce que ça, c'est intéressant aussi. On en reparlera de cette relation. En fait, c'est vraiment tout un écosystème entre les auteurs, les éditeurs, les libraires, pour que arrive, jusque dans les mains des lecteurs, le livre. Mais Rémi Bellhomme, typiquement, comment il arrive jusqu'aux éditions au pluriel ? Comment ça se passe, en fait, cet accompagnement ?
Ah, là, c'est très particulier. Rémi Bellhomme, c'est une connaissance d'une connaissance d'une connaissance. Donc, c'est quelqu'un qui sait qui est Fabienne Dedienne. Et puis, un jour, il arrive avec deux chapitres et il me dit « On m'a dit que tu étais une lectrice assidue. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur ce que j'ai écrit ?» Et puis, j'ai lu. J'étais assez bouleversée et je lui ai dit « Mais continue !» Et il a continué, ça a pris 3 ans, je crois. Et puis, il est revenu, on a retravaillé sur certains chapitres, on a revu certains passages, on a changé quelques prénoms, et on est arrivé à, pour moi, un livre qui était assez impressionnant.
Et j'ai une petite anecdote. Parce que j'ai fait un salon du livre un jour, et Rémi Bellhomme était avec moi, avec son premier livre, « La Mama des Casins ». Et quand les gens venaient sur mon stand, je disais non, c'est celui-là qu'il faut acheter.
Merci Hervé.
Je ne le ferai peut-être pas à tous les coups, mais...
et donc on entend dans ce que tu dis, c'est un vrai accompagnement. Toi, Sébastien, qui a aussi la casquette d'auteur jeunesse, cet accompagnement-là, enfin, il faut vraiment... Vous croyez dans les auteurs, les autrices, c'est Sabine Vespizer, l'éditrice, qui disait le métier d'éditeur, c'est un exercice d'admiration.
Ah, moi, je suis d'accord.
Ah oui. Cette édition, nous, on collabore avec Simon Bunion, le photographe. On a fait presque une dizaine de livres avec Simon, et c'est un cheminement en fait. On est Simon, il évolue dans son travail de photographe, il évolue dans sa vie personnelle et tout ça. Enfin, voilà. On est à son écoute. Il y a des livres qu'il a fait il y a 10 ans avec Véronique Lardy, et sa photographie a évolué et tout ça. Donc, qu'il est de plus en plus dans l'intimité, une envie de partage et tout ça, afin de travailler plus sur les matières. Et c'est vraiment chouette de le voir évoluer, quoi, et on l'accompagne comme ça. Et c'est vrai que pour Fabienne, avec Rémi Bellhomme, je pense que c'est aussi un accompagnement comme ça, quoi. Enfin, c'est que dès qu'on est à 3, 4, 5 livres avec le même auteur, c'est vraiment un travail de confiance, le terme accompagnement est vraiment, vraiment important. Et après, on peut avoir un coup de cœur sur un projet qui rentre pas forcément. Il y a des livres qui sont très hybrides. Nous, moi, j'ai adoré faire ce travail-là avec autour du livre Parole de femme, qui était un projet porté par le Secours populaire. Autour de femmes migrantes en situation irrégulière. Donc il y avait eu un accompagnement par deux comédiennes, en fait, qui étaient d'abord un groupe de parole, et puis le groupe de parole s'est transformé en texte écrit, et il y a eu une rencontre aussi avec un musicien et un plasticien, et donc il y a eu des musiques et des dessins qui ont accompagné ces textes. Et nous, on est venus nous en parler en disant, voilà, ça pourrait être bien que la finalité de tout ce travail remarquable, très humain, ça soit un beau livre. Et donc, voilà, là, quand on a des projets qui arrivent comme ça, on ne se pose pas la question de modèle économique, il faut le faire, quoi. Ouais. C'est une telle évidence d'être sur, voilà, d'accompagner ce projet. Et ça, c'est vraiment des choses qui nous tombent dessus, là, comme ça, et c'est juste magique, quoi.
Dans ce que vous dites, là, déjà, on entend vraiment que c'est pas l'idée qu'on pourrait se faire d'un éditeur qui arrive un peu en fin de course et qui, quelquefois, est un petit peu dur. En préparant cette émission, j'ai essayé de repérer des chansons qui parlaient justement du métier d'édition, et il y en a une qui est terrible, de Charles Aznavour, on entend juste la fin.
Je vois d'en haut les gens s'arracher mes bouquins. Souvent il faut mourir pour devenir quelqu'un. Mais comme une ombre, souvent la nuit, je reviendrai, je le promets, et sans répit. Je ferai peur aux éditeurs toutes les nuits. Je ferai peur aux éditeurs toutes les nuits.
Et oui, là, il est un petit peu... Il a la dent dure sur les éditeurs qui ne l'ont pas édité.
Moi, j'ai une petite anecdote sur les manuscrits qu'on reçoit. Bon, moi, j'en reçois beaucoup moins que Fabienne. C'est donc là, avec ma casquette auteur jeunesse, donc j'ai eu la chance d'être édité par Actes Sud. Et mon éditeur, François Martin, me disait depuis le Covid qu'il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aspirent à avoir un livre, et ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a une envie que forcément le livre peut rencontrer un auteur et tout ça. Ce que je crois beaucoup j'ai pas le sentiment quand je fais des livres que je suis sur une démarche opportuniste, quoi. J'ai pas du tout dans cette idée, même si derrière il y a quand même un modèle économique et tout ça, et donc il faut que quand je fais un livre, j'espère quand même qu'il va se vendre. Mais en tant qu'éditeur, je me dis pas oh là là, il faut que j'aille sur, parce que là il y a une tendance super intéressante, donc il faut que je fasse un livre sur cette thématique là parce que ce livre là va marcher parce qu'il y a une tendance. Enfin, j'ai pas été sollicité par quelqu'un qui a fait de la prison et qui a passé 15 jours en prison et qui a eu envie d'écrire ses mémoires de prisonnier, quoi. Enfin, non, mais la notion d'opportunité, je pense que et Hervé et Fabienne peuvent en témoigner.
Hervé Ozil, les éditions du Chassel, ouais, cette question d'opportunité, parce qu'il y a quand même... Tu l'as évoqué tout à l'heure, Sébastien Gaillet, donc cette édition, en disant mais on n'a pas les moyens financiers de salarier une deuxième personne. Donc il y a quand même, pour que continuent de vivre les maisons d'édition, il faut quand même qu'il y ait financièrement plus ou moins un équilibre. Comment on fait, comment on mêle ça?
Je pense dans un éditeur, il y a à la fois ou une éditrice, une passionnée, et puis après un responsable d'entreprise, et que c'est souvent le passionné qui prend le dessus.
Parce que pour qu'on comprenne bien, sur un livre qui se vend 10 euros, comment ça se répartit?
Je le dis dans mes interventions dans les classes. Sur un livre vendu 10 euros, on va dire qu'il y a 1 euro qui revient à l'auteur, dans le meilleur des cas. Il va y avoir 3,50 euros qui vont revenir à l'éditeur. Mais, il y a un petit mais, c'est que l'éditeur, avec ses 3,50 euros, il va devoir payer l'impression, il va devoir payer le graphisme. Il y a 2,50 euros qui va être reversé au diffuseur, quand il y a un diffuseur. Donc, c'est pour ça que nous, à cette édition, on fait le choix de ne pas avoir de diffuseur et on met les cartons dans la voiture et on fait la tournée des libraires et tout ça pour amener nos livres. Et après, il va y avoir 3,50 euros, ça dépend, pour le revendeur, en fait, qui sera des libraires ou... parce que nous, on travaille beaucoup en dépôt-vente. Enfin.
Oui, c'est ce que... Je rebondis sur ce que tu dis, on travaille beaucoup en dépôt-vente.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire, pour que les gens comprennent, dépôt-vente,
ben, on laisse des ouvrages et on repasse pour voir ce qui a été vendu. On fait le décompte, mais on n'est pas... Quand on amène des livres, on repart pas avec le chèque tout de suite.
C'est-à-dire que c'est pas les libraires, là, sur ce modèle-là, qui prennent le risque, puisque eux, si ça marche pas, ils reprennent le livre, c'est ça.
De toute façon, on est obligé de reprendre les livres qui sont invendus. À moins d'avoir des conditions générales de vente très 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 strictes et de les respecter en disant si vous ne l'avez pas vendu au bout de 6 mois, que vous ne nous avez pas prévenu, on vous le laisse et tant pis, on vous le facture. Mais ça ne marche pas. Alors après, c'est la facture qui n'est pas payée. Donc ça ne sert à rien. Il faut absolument avoir un rapport de confiance avec, avec le libraire ou le point de vente. Ce n'est pas possible de travailler autrement. Ceci dit, ça reste quand même très très compliqué.
Et puis c'est une lourdeur administrative, hein, puisque ça veut dire qu'on est obligé de prendre contact avec le dépôt-vente en lui disant vous nous avez vendu combien de livres. Donc y en a qui sont très réactifs, qui jouent vraiment le jeu, mais il y en a, il faut leur courir après... pendant de nombreuses semaines, et après on émet une facture, et c'est pareil, pour se faire payer la facture, des fois ça peut être très long. Donc il y a cette lourdeur administrative et tout ça. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout, quand on a repris la maison d'édition avec Sylvie, tout ce modèle de la chaîne du livre, et le dépôt-vente, c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique, en fait, aux petites maisons d'édition indépendantes, et c'est quand même lourd administrativement, quoi.
Il y a aussi une autre donnée... c'est le coût des envois. Là, j'ai dans le coffre, j'ai des livres à envoyer à Nîmes. C'est pour envoyer 4 livres, c'est 25 euros de port, quoi. C'est énorme.
Oui, mais si tu prenais ta voiture et tu faisais un aller-retour à Nîmes...
Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas dire au libraire de faire la moitié du trajet, quoi.
C'est vrai que le problème du port est un réel problème, parce que on a des concurrences, je dirais, très importantes de grosses plateformes. Par exemple, nous, on a nos livres qui sont référencés à la FNAC, mais la FNAC nous demande 40%. Pas 35% comme les libraires, mais 40%, et nous impose de facturer les ports des livres maximum 2 euros. Donc on ne peut pas facturer plus que 2 euros de port pour un livre qu'on va envoyer n'importe où et qui va au mieux nous coûter 6, 7, parfois jusqu'à 10 euros, si c'est un livre lourd.
Oui, dès qu'on fait du beau livre, le coût... Le coût de transport est vraiment important. Ouais. Ouais.
Et d'un autre côté, on n'a pas le choix. Il faut avoir son livre sur la plateforme de la FNAC. Il faut que le lecteur, quand il tape le livre, le nom de l'auteur, le nom du livre approximativement, il le retrouve. Donc c'est quelque part une façon de faire connaître le livre, l'auteur, la maison d'édition, d'apporter un rayonnement. En sachant que toutes les ventes seront déficitaires, ou presque.
Après, il y a des choix personnels. Moi, je sais que par rapport à Amazon, moi, j'ai pas de livres qui sont référencés sur Amazon. Quoi. Mais là, c'est une histoire d'éthique. C'est un choix aussi de faire imprimer nos livres en Auvergne-Rhône-Alpes ou plus loin et ne pas... on aurait sans doute des conditions... tarifaires plus intéressantes à l'étranger, tout ça, mais on fait des livres sur l'Ardèche, on essaye d'être au plus près et de respecter cette idée des circuits courts.
Pour vous, c'est aussi possible ?
Moi, c'est aussi mon éthique, oui. Oui. Mais bon, je me souviens toujours avoir travaillé avec un imprimeur pour un livre relié, cartonné, et je lui dis, vous faites pour la reliure ? Ah non, il me dit, on envoie ça. Ah bon, je dis, d'accord. Alors nous, on fait l'effort de faire travailler l'imprimeur local, mais lui n'a pas d'étalable pour envoyer ça.
Moi, j'imprime en France. Hein. J'imprime pas forcément en Rhône-Alpes. J'ai 3 ou 4 imprimeurs en fonction de du type de livre que je choisis. Mais j'ai pas trouvé en Rhône-Alpes le même service, la même qualité que j'ai pu trouver chez certains autres imprimeurs. Mais quand même, imprimé en France.
On va revenir aussi à ce qui vous anime. Et quand je t'ai posé la question... Hervé, tu m'as glissé Gérard Latier dans le creux de l'oreille.
Le silence. Mon ami Candide avait autrefois un petit musée du bizarre où on se retrouvait tous quelquefois. Candide était un rassembleur. Hein. De temps en temps, j'ai rencontré un tas de gens et il me racontait un tas d'histoires, il exposait mes tableaux aussi. Il faisait des livres, il était éditeur. Il avait fait La mémoire en couleur, le premier livre. Voilà. Et un jour, il m'a raconté cette histoire. Monsieur Walt Disney, il a l'idée de s'installer en Ardèche. Et tous les gens de l'Ardèche, les commerçants, les épiciers, ils ont des dollars dans les yeux. Putain, ça va rapporter des sous, tout ça. Alors, ils décident de présenter à M. Walt Disney de bonnes raisons pour qu'il s'installe dans l'Ardèche. Il est convoqué, Candide, et il va à la réunion. Et sur sa tête, il a mis un bonnet avec 2 grandes oreilles de Mickey qu'il a trouvées. Et il s'installe au milieu de tous les commerçants, les bras croisés. Il dit rien, c'est le silence.
C'est le silence. Par le conteur, Gérard Latier. Hervé Ozil.
Alors, ça ramène beaucoup d'émotions, parce que, moi, j'ai Candide m'avait édité. Candide, le musée du bizarre, c'est tout un pan de ma vie. Et c'est là que j'ai rencontré Gérard Latier, que j'ai édité. Donc il y a une sorte de filiation, finalement, avec Candide. Quand le petit musée, quand Candide nous a quittés, j'ai été président des Amis de Candide. On a essayé de maintenir ce musée. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais c'est comme ça que j'ai connu Gérard Latier. C'est comme ça que j'ai connu aussi ce que pouvait être l'art, finalement. Ça m'a ouvert beaucoup sur le champ artistique. Et Gérard Latier, un compagnonnage, puisque j'ai édité 2 livres avec lui, et que Le voyage en peinture, hein, en 2004, c'était un des premiers livres que j'ai édité et dont je suis fier. et une amitié, bah, pareil, quoi, de 25 ans avec Gérard, grâce un peu à Candide, puisque c'est là qu'on s'était rencontrés. Donc il y a beaucoup de choses là.
Ouais, un long compagnonnage, puisque tu es encore régulièrement avec lui. Vous faites, vous allez éditer un prochain livre ?
Bon, alors, je suis président des Amis de Gérard Latier. On va faire des appels de cotisation. J'aimerais faire encore un ouvrage, peut-être le dernier des éditions, mais bon, on voudrait faire un bel ouvrage sur, avec Gérard sur la route vers le pardon.
Tout un programme. Hein.
Oui.
Ah, ben, quand on connaît Gérard, on sait que voilà, c'est un long, ça a été un long cheminement aussi. Mm-hmm. On a voilà, on est allé éditer, on est allé l'exposer en Allemagne l'année dernière. Lui, dont le père était mort pendant la guerre, et exposer en Allemagne pour lui, c'était le chemin vers le pardon, et c'est ça que j'aimerais voilà, mm-hmm. qu'on en garde mémoire.
Un prochain donc, projet éditorial, enfin littéraire, plus que ça, d'amitié.
Peut-être revenir un peu sur les coulisses du livre, parce que donc là, nous, on travaille sur un nouveau livre avec l'équipe qui avait fait le livre sur les arbres remarquables, donc un livre sur l'eau et l'Ardèche. Et donc là, on est vraiment en train de travailler, mais donc l'éditeur, là, dans ce cadre-là, donc il y a un auteur, Bruno Boiron, il y a une illustratrice, Alice Boiron, il y a Simon Bignon qui fait les photos, il y a un graphiste, parce que nous, on travaille, on externalise la partie graphiste, donc Patrice Brosseau, et donc il y a tout ce travail, en fait, de choix du format, du nombre de pages, du papier choisi, de la typo. De caractère, les photos, les notions, des propositions de mise en page. On a une réunion demain, justement, où Patrice doit nous faire des propositions de texturage, de papier. Il y a vraiment tout ce travail-là. Et donc, nous, on a j'aime bien ce mot, chef d'orchestre, en fait. Et on a des virtuoses qui nous mettent à disposition du matériel et donc on discute collectivement en fait. Et toutes les décisions qui sont prises, on n'arrive pas, on n'est pas les sachants et tout ça. C'est vraiment un travail collaboratif et en tout cas, nous, on travaille vraiment comme ça, quoi.
Mmh. Oui, c'est ça. C'est la part de éditeur, auteur au sens pluriel, hein, puisque ça peut être illustrateur, graphiste, etc. Vous êtes constamment en dialogue, vous aussi, aux éditions au pluriel, oui. Fabienne ?
L'auteur, il a toujours son mot à dire, que ce soit sur la couverture, la quatrième de couverture. Après, au moment où on décide d'éditer un livre, on sait déjà dans quelle collection on va la mettre. On va mettre cet ouvrage. Donc forcément, il y a des critères pour rentrer dans la collection qui vont faire que on a décidé que cette collection-là, c'était tel format, que c'était telle police d'écriture. Après, on n'est pas du tout dans le même genre que les livres de Sébastien, parce que on a fait peu de beaux livres, on en a fait deux. On a fait aussi un carnet de voyage, mais c'était quand même essentiellement le travail de l'artiste. Mais dans un roman, ce qui compte, c'est le format, le prix qu'on va lui appliquer pour savoir s'il va être vendable ou pas.
Alors, comment on détermine le prix ?
On discute un petit peu pour savoir si celui-là, on peut le vendre 15 euros... 12 euros, 10 euros,
moi, j'ai
en fonction du nombre de pages.
Ouais. Moi, je pense que vous le connaissez aussi. Il y a un logiciel en fait, qui permet de mettre d'un côté les coûts en fait, de fabrication du livre et après, derrière, de voir la rentabilité du livre à tel prix. Si on décide de mettre un prix, je dis n'importe quoi, mais si on va donner l'exemple du livre sur les arbres, il est assez symptomatique. Donc, ce livre sur les arbres, moi, le livre, il n'est pas sorti. Il faut que je sorte 18 000 euros sur ce livre-là. J'ai 14 000 euros d'impression, j'ai 3 000 euros de graphisme, j'ai de l'achat un petit peu d'achat de photos, donc on arrive à peu près à 18 000. Dans ces conditions-là, donc moi je rentre mes 18 000 euros. Si je vends le livre 30 euros, eh ben il va falloir que je vende 600 livres ou là sur cette configuration là c'était même 1000 livres, donc on l'avait tiré à 2000 exemplaires avant de commencer à gagner de l'argent. Donc en fait, on a ce ratio et tout ça, et on regarde ce qui est faisable et tout. Et donc, on, ce qui est intéressant aussi quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des aides, puisque les, le livre, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes en France. Il y a le prix unique du livre, quel que soit où le livre est vendu, que ce soit dans une grande surface, dans une librairie, chez Amazon, à la Fnac et tout ça, le prix est le même. Et on a la possibilité d'être accompagné par le Centre national du livre, d'avoir des subventions. Donc sur le livre sur les armes, en l'occurrence, moi j'ai eu une aide à l'impression, à la fabrication du livre, et donc il m'a permis de diminuer mes, mes coûts et tout ça. Mais là, je l'ai eu une fois, je ne suis pas du tout sûr pour les prochains ouvrages. Donc on fait ce calcul-là et pour qu'on arrive à peu près à s'y retrouver. Sachant que enfin, nous, quand on a fait le pari avec Sylvie de reprendre cette maison d'édition... on avait fini de payer notre maison, on n'avait plus d'enfants à charge, et donc c'est des choses qu'on a intégrées aussi, sur, et on savait qu'on allait, on n'allait pas devenir riche grâce à l'édition, quoi.
C'est vrai qu'en plus, on n'est jamais sûr de trouver sur un ouvrage un public. Moi, j'ai des livres auxquels je croyais que, qui sont sur les palettes. Et ça, c'est terrible. Et j'ai des livres, j'avais édité un livre sur les moulins d'Ardèche, 600 pages. Je me suis dit, je l'ai édité à peu d'exemplaires, le minimum hein, en offset, hein, 600 exemplaires, puisqu'il faut le stocker et tout. En 3 mois, tout a été vendu. Alors là, je me suis dit, pourquoi j'en ai imprimé si peu? C'est un modèle économique, effectivement, sur lequel bah, on a beaucoup d'incertitudes.
Il y a un peu de feeling, un peu de... Voilà, on espère.
Moi, je travaille un peu différemment. Hein. Au départ, je suis comptable. Hein. J'ai un diplôme de comptabilité. Donc, normalement, la gestion, la comptabilité, je devrais me débrouiller. Mais ma maison d'édition, elle est déficitaire. Et elle va encore être déficitaire un certain temps. Parce que je n'ai pas droit aux aides. Parce que j'ai une autre activité, heureusement, qui me permet de financer ma maison d'édition, qui permet de financer mes petits projets, mais qui, du coup, ne me permet pas de demander des aides. Parce que comme mon autre activité va très bien, eh bien, j'ai pas droit aux aides pour pouvoir financer des livres. Donc c'est un peu compliqué. Après, c'est un choix. Moi, je fais le pari que... un livre, un deuxième, un troisième, je ne sais pas, finira par fonctionner bien. Et puis que grâce à ça, ben, tous les autres pourront être édités, que je pourrai en éditer d'autres. C'est un pari, je suis joueuse.
Pari aussi pour tout le monde. Qu'est-ce que, peut-être une dernière question, vous participez à créer l'imaginaire d'un territoire. Est-ce que, notamment, je pense à Hervé et Sébastien, puisque vous travaillez sur des livres pas mal en prise avec l'Ardèche, est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que ça a du sens d'essayer d'orienter un petit peu l'imaginaire de l'Ardèche?
En tout cas, oui, nous, dans notre positionnement et le fait qu'on fasse beaucoup de livres avec Simon Bugnon, on a fait le livre aussi avec Mathieu Dupont. C'est sûr que moi, dans mon choix de reprendre cette maison d'édition, c'est aussi pour rendre tout l'amour que j'ai pour ce département, quoi. Enfin, vraiment, je suis lyonnais, ça va faire bientôt 30 ans qu'on est installé en Ardèche et tout ça, et c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée, quoi, de venir nous installer ici. Donc, à travers nos livres, je pense que, enfin, Fabienne peut dire la même chose, sur un roman qui, notamment, moi, le livre de Rémi Bellhomme,
c'est la
vallée des éperdus et tout ça, c'est un magnifique hommage à une Ardèche donc des années 70-80, quoi, en fait. Mais
moi, je voudrais surtout qu'on comprenne qu'il ne faut pas être parisien pour être éditeur, que des livres, des manuscrits, il y en a partout en France, et que il faut pas concentrer tout ce qui est éditorial sur la capitale. Et c'est un petit peu ça qui pose problème. Nous, on est suivi par des libraires un peu partout, sauf à Paris. Là, on n'a aucun libraire qui achète nos livres. Je sais pas, on doit puer.
J'en avais un, moi, mais il a fermé.
Moi aussi, je confirme, j'en ai pas.
Moi, j'ai beaucoup d'ouvrages qu'on pourrait appeler un peu encyclopédiques sur l'Ardèche. Donc, qui sont des ouvrages de référence. Là, d'Andresse aux Gorges de l'Ardèche, hein, l'ouvrage sur les Gorges de l'Ardèche, entre autres, hein, mais aussi la cuisine des Hautes-Terres, puisque c'est aussi un patrimoine qu'on a mis ainsi en valeur, quoi. Et puis, il y a des regrets aussi. Il y a des ouvrages qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas pu faire, parce que financièrement, on ne pouvait pas le faire à cette époque-là. Et puis, que lorsqu'un ouvrage est prêt, ben, si on l'imprime, l'édite pas tout de suite, 5-6 ans après, ben, il devient un peu obsolète. J'avais une encyclopédie du Coiron, et c'est un de mes grands regrets de ne pas l'avoir pu l'éditer.
Et c'est trop tard.
Ben, c'est-à-dire qu'il faudrait tout reprendre. Mais tout reprendre, il y avait 7-8 auteurs, certains sont décédés, certains, donc il faudrait... C'est une encyclopédie, donc c'est un coût énorme, quoi. Et puis j'ai un manuscrit de Michel Carla, que j'ai jamais édité non plus. Bon, voilà, c'est des regrets, mais bon, voilà, automatiquement, on peut pas...
Il reste plein de portes ouvertes et plein de possibilités, enfin, des regrets, mais voilà, il y a peut-être d'autres choses qui vont émerger de tout ça. Avant de se quitter, un rendez-vous, c'est Auvence, le troisième salon.
C'est le troisième salon, les livres et les vences. Et Hervé, Sébastien seront là aussi. Donc le 1er mars, dans toutes les salles du centre d'accueil des vences, c'est un dimanche. On espère avoir beaucoup de monde en 2024. On avait eu plus d'un millier de visiteurs. On espère avoir la même chose cette année. Voilà.
Avec une marraine qui est Laura Vasquez.
Laura Vasquez qui a accepté d'être la marraine de cette édition. Et puis d'autres auteurs un peu plus connus. Franck Andria, Denis Infante, Gaël Perrin-Guillet.
Rémi Bellhomme dont on parlait.
Rémi Bellhomme que j'ai mis en invité d'honneur. Et j'en oublie, il y a Diane Pelin, il y a Nelly Ponce, voilà. Donc, et une quarantaine d'auteurs ardéchois, cévenols, on va dire, un peu moins connus, mais qui ont toute leur place dans un salon régional.
Et quel beau salon.
Ouais. La première édition était magnifique. Ouais. Venez en courant.
Venez en courant, donc c'est le 1er mars à Auvence. Merci à tous les trois d'être venus pour nous éclairer un peu, puis parler aussi de ce qui vous anime en tant qu'éditeur. Donc je rappelle Hervé Auzille pour les éditions Duchassel, Fabienne Dedine pour les éditions Au Pluriel et Sébastien Gaillet pour cette édition. Merci et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Ciao.
Merci.
Merci.
I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
This operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman. Craftsman. Craftsman.
Le Saint-Lô Impromptu.